À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30, 13h, sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler d'un projet de vie, d'un projet de construction. Ce sera en seconde partie d'émission. On accueillera aussi une association importante pour le territoire, l'ADMR. Mais tout de suite, on parle tourisme et ce, en compagnie de Célia Marion, médiatrice culturelle de Saint-Martin-la-Palue. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler du site des Tours Mirande qui fait sa petite révolution ou évolution numérique. Vous allez nous parler de ça. Alors peut-être parler un petit peu d'abord de ces sites, les Tours Mirande, pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas encore.
Alors le site archéologique des Tours Mirande se situe à Saint-Martin-la-Palue, donc pas loin du centre-bourg de Vendeuvre-du-Poitou. C'est un site gallo-romain 1er, 3e siècle après Jésus-Christ, donc une cité secondaire qui faisait environ 70 hectares et qui a vraiment été découvert dans les années 60 et qui a connu plusieurs campagnes de fouilles depuis.
Ça, il a été découvert assez tardivement, en fait.
C'est ça.
Donc, ce site, aujourd'hui, qui sont les visiteurs? Un petit peu, quelle est la situation avant son évolution?
Alors, ce site est ouvert au public depuis 2008, avec une mise en tourisme, avec un petit espace musée. En termes de visiteurs, donc des familles, des touristes, des groupes, des scolaires, centre de loisirs, un peu tout. Et ils viennent en apprendre un petit peu plus sur l'histoire antique de ce site, qui est assez méconnu.
Et c'est à peu près à combien de personnes par an, vous savez?
Environ 2500.
2500 personnes environ pour l'instant. Alors, vous avez décidé de faire évoluer un petit peu l'expérience de visite, comme on dit. Pour quelles raisons?
Alors, c'est un projet qui a déjà 9 ans, en fait. Ce projet numérique, c'est vraiment très ancien. Le problème principal de notre site, c'est que tout a été détruit. Tout est ras. On n'a pas de vestiges comme à Sensé où c'est élevé. Nous, on n'a rien en élévation, à part un mur. Donc, il est nécessaire pour le public de pouvoir visualiser un petit peu plus les monuments et de comprendre l'organisation de cette cité.
C'est ça, c'est permettre un petit peu de s'imaginer comment c'était à l'époque.
Alors, d'avoir des pistes d'imagination, parce que le parti pris fort, nous, de notre visite numérique, c'est qu'on veut être presque sûr, scientifiquement parlant, donc on n'a pas pris l'option réalité augmentée où la ville pouvait ressembler à ça. Nous, on a voulu vraiment s'appuyer sur des sources et sur des vraies recherches historiques et ce qu'on propose. On ne peut jamais être sûr à 100% en archéologie, mais on est le plus sûr possible et on ne propose pas de reconstitution un peu trop artistique.
Et aujourd'hui, de quoi on est sûr sur ce site? À quoi ça ressemblait?
Alors, on est sûr. Les dernières estimations parlent d'une cité de 70 hectares. On sait qu'on avait un sanctuaire principal avec un temple qui mesurerait environ 32 mètres de haut, donc ce qui est énorme. On sait que c'était une cité très riche. On avait par exemple 14 types de marbres différents qui proviennent de tout l'Empire romain. On a
quand
une
même
esplanade immense qui fait 5 hectares. Et si elle avait l'appellation forum, on aurait le plus grand forum de l'Empire romain. Donc on sait que c'était une ville qui était très importante.
Et pourquoi si peu connue?
Parce que rien n'est visible, voilà, et on n'a aucune source écrite qui parle de ce site. On n'a pas le nom antique, par exemple, et on n'a jamais retrouvé d'écrit qui évoquerait cette cité secondaire.
Alors, l'objectif de ce projet, c'est aussi une question d'accessibilité du site. Enfin, ça fait partie des objectifs, ou en tout cas, peut-être meilleure inclusion de toutes les personnes.
Alors, de toute façon, le site était assez accessible puisque c'est un chemin en gravillon, donc n'importe qui peut circuler dessus. Mais là, effectivement, on peut permettre aux gens de venir visiter le musée plus facilement et puis de s'adresser à la fois aux familles, aux personnes âgées, aux plus jeunes, puisque la tablette est très simple d'utilisation. Et on a sur cette tablette, évidemment, plusieurs langues, mais aussi des options pour les personnes qui ont des problèmes de vision, pour les personnes qui ont des problèmes d'audition, par exemple.
Alors concrètement, vous parliez de tablette, justement, concrètement à quoi ça ressemble cette nouvelle visite?
Alors en fait, on a une tablette qui se géolocalise sur le site et on a 8 points d'intérêt différents le long du parcours. Et à chaque point d'intérêt, un petit pop-up apparaît sur la tablette avec une petite partie explicative, des documents de sources très diverses. On a vraiment voulu montrer à la fois des documents d'archives, des plans d'archéologues, des fragments, des photos d'objets retrouvés. Et sur 6 des 8 points d'intérêt, on a un contenu numérique. Donc ça peut être une réalité augmentée, une vidéo 3D, une proposition de reconstitution. Tout va dépendre du lieu où on se trouve.
Et alors, un projet qui a nécessité un financement, comment vous avez pu financer cet aspect numérique?
Alors, c'est la communauté de communes du Haut-Poitou qui a repris ce projet suite à la loi NOTRe en 2015. Et donc, ça a été financé en partie par la communauté de communes et de nombreuses subventions, que ce soit à l'échelle départementale, régionale, nationale et même européenne.
Donc vous l'avez testé là, ça ouvrait aux vacances de Pâques, je crois?
Exactement, oui.
Alors, quels sont les premiers retours? Racontez-nous.
Eh bien, les premiers retours sont très positifs. Ouais. Les gens sont assez surpris déjà de pouvoir se rendre compte de ce qu'il y avait ici et de découvrir l'importance de ce site. Donc voilà, très positif. On attend plus que la saison estivale pour commencer, puisqu'on attend le beau temps aussi.
Ouais.
Parce qu'aux vacances d'avril, on n'a malheureusement pas eu un temps très agréable. Nous, c'est un site qui est entièrement en extérieur. Donc c'est vrai que quand il fait 6 degrés ou qu'il pleut, ce n'est pas le moment où les visiteurs viennent le plus.
Est-ce qu'il va y avoir des passerelles avec les autres sites du même type ou de la même époque dans la Vienne?
Peut-être à l'avenir. Je discute beaucoup, par exemple, avec Sensay. Mmh. Mais le problème, c'est les distances à chaque fois aussi. Quand il y a 45 minutes de route entre deux sites, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Après, nous, on est intégrés, par exemple, dans le réseau Via Antica, qui est une association qui relie tous les sites de la Vienne, un petit peu de Sèvres, un petit peu Charente aussi, archéologiques, donc gallo-romains.
Et alors, l'espace musée, lui aussi, il a évolué. Hein.
Alors, l'espace musée, la muséographie a entièrement été refaite. Et dans cet espace musée, désormais, il n'y a que le musée. Jusqu'ici, on accueillait les groupes. Maintenant, les groupes pour les activités ont aussi un espace qui leur est dédié. Et le musée, donc, a deux nouvelles pièces exposées.
Qu'est-ce qu'on y trouve, du coup, maintenant, dans ce musée?
Alors, on y trouve des tessons de poterie, des poteries reconstituées, reconstruites. On a des pièces de monnaie, on a des objets en fer, que ce soit des bagues, des fibules, donc des petites accroches pour les vêtements. Des objets très, très divers. On a au moins 150 objets exposés.
Est-ce qu'au niveau communication, il va y avoir aussi un travail de fait pour attirer plus de monde?
Alors on continue, nous, nos publications sur Facebook, les affiches, et on compte beaucoup en fait sur notre soirée antique qui est le 13 juillet, qui fait venir toujours environ 2000 personnes, qui est une façon de faire connaître le site différemment, donc avec un spectacle de feu. Et là, cette année, on veut remettre aussi l'histoire du site au centre, donc on aura des visites guidées. Le musée sera ouvert aussi lors de cette manifestation. C'est un des moyens qu'on a pour faire connaître le site.
Donc le 13 juillet, soirée antique, c'est soirée spectacle, c'est...
En fait, dès 15h, le site est ouvert, donc avec des jeux pour les enfants, des jeux gallo-romains, on organise des murder parties. On a un cochon grillé le soir et la présence de food truck, et on a donc tout un tas d'animations l'après-midi, et à partir de 22h, un spectacle de feu. Et comme c'est le 13 juillet, on ajoute aussi le feu d'artifice assez habituel de la fête nationale.
Donc feu d'artifice dans un site antique, c'est pas mal. Et l'objectif, ce serait quoi? De doubler, a priori, le nombre de visiteurs pour
idéalement.
Idéalement. Passer à 5000 visiteurs par an.
Ce serait exceptionnel.
Ce serait l'idéal. Et ben, un grand merci, Célia Marion, d'être venue nous parler donc, de ce site des Tours Mirandes qui mise maintenant sur le numérique pour permettre de mieux se représenter ce site. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes médiatrice culturelle donc à Saint-Martin-la-Palue. On continue en musique avec Summer Pearl et ce titre Waste Your Time.
I don't wanna waste your time. Love is not ever enough. Now we have to fuss and fight. Now we're just faking us. I'm just tired of trying to prove it. How can we be moving so foolish? There's a whole bag of reasons. I don't wanna waste your time. Yeah.
Feel like a gun's been lifted from my head. No guilty feelings, no memories to regret. And there's no coming back from things that were said. Hurt me like you want me for dead.
So you say I'm your beloved, but I've been messing up your mind. Make it make sense, cause yesterday was mine. Switching up the truth and now it's bye, bye, bye. It's hard to see the truth in your lies.
I never lived in the dark, I only lived in the light. Only think about myself and know I'm guilty sometimes. Might be running from soul, cause
got reasons. I don't wanna waste your time.
No, 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 no. It wasn't always bad, there were some good times, my friend. Hey. A shame we never could have loved to the end. I only ever wanna see you shine, I intend.
Okay.
Good intentions from that man. Push my buttons hard, the good Lord from the start. You please me. I know I sometimes tough, but not easy. Give you everything but me blood, so free me. If I am not enough, find another love and stop messing with my mind. Messing with my mind. But I never knew that you could be so unkind. Messing with my mind. Messing with my mind. I don't wanna waste your time. Your time.
Love is not ever enough.
It's never enough.
Now we have to fuss and fight. Now we're just faking us. I'm just tired of trying to prove it. How can we be moving so foolish? There's a whole bag of reasons.
Ça, c'est bizarre.
Les étoiles en plus.
Et on accueille tout de suite Maxime Ménin, président, et Lydie Candusso, trésorière de l'association Ecovie. Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un projet qui vous tient à cœur, j'imagine, le projet Ecovie, projet à la fois de vie et d'habitat. Racontez-nous comment est né le projet, Maxime.
Le projet est né depuis très longtemps, en fait, j'ai eu l'idée de quelque chose qui n'existait pas. Et au final, j'ai réussi à dessiner la maison, à concevoir la maison de façon écologique.
Alors racontez-nous, vous avez une expérience là-dedans, parce que vous êtes menuisier ébéniste depuis pas mal d'années déjà.
Oui, depuis une dizaine d'années. Et ça m'a permis de côtoyer beaucoup de personnes du bâtiment, de découvrir beaucoup de choses. Et c'est la conception de la maison répond aux besoins actuels et futurs de notre société de consommation.
Et ce sont un peu des accidents de la vie qui vous ont amené à réfléchir à cette nouvelle maison, ce nouveau mode de vie, hein ?
Oui, c'est deux accidents. Et en fait, ça m'a permis de réellement réfléchir, d'avoir tout le temps pour pousser ma réflexion.
Alors vous vous êtes associé à d'autres personnes, peut-être Lydie Candusso, vous pouvez nous en parler. Qui entoure Maxime et dans ce projet ?
Alors on a monté une association fin janvier, puisque Maxime était donc porteur de ce projet un petit peu seul face aux administrations, seul pour communiquer. Et nous, on était un peu autour de lui, on trouvait le projet très intéressant, mais on s'impliquait pas trop. Et on a dit un jour, mais en fait, il faut que le projet avance, puisque c'est un projet d'utilité sociale. Et lui tout seul, c'est compliqué. Donc nous sommes une toute petite association, donc on a démarré à 4 personnes. L'entourage familial de Maxime et moi-même, donc on est amis depuis un petit moment maintenant. Et je me suis dit, bon, je vais faire un peu quelque chose d'utile à la société, en plus de mon métier qui n'était pas forcément, qui était plutôt tourné vers un peu le capitalisme. Donc j'ai voulu aider et on a dit, on va monter une association pour aussi ouvrir le projet à d'autres personnes, pas être centré sur nous et se dire que ça répond aux besoins de plein de gens et qui auraient envie de venir travailler avec nous. Alors bénévolement certes au départ, et on commence à avoir quelques bénévoles qui nous aident sur la communication, qui nous apportent beaucoup de conseils, et on essaye de développer la communauté en communiquant, donc comme aujourd'hui, pour plus être centré sur nous et ouvrir, et puis là, on prend contact avec beaucoup de municipalités, collectivités, puisque le projet de cette maison a besoin d'un ancrage territorial et c'est la première étape.
Première
en fait.
Étape qu'il va falloir
voilà.
franchir.
Voilà, voilà.
Parce que, alors, vous parlez d'utilité, vous parlez
oui.
de valeurs. Mmh. Justement, quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant dans ce projet?
Alors, l'origine, Maxime, son idée, c'était la conception d'une maison autonome, bioclimatique, résiliente, avec jardin nourricier. C'est une très grande maison qui a de nombreuses chambres, des espaces communs, voilà. Et il s'est dit, il faut que ça serve à quelqu'un. Ça ne sert à rien que ce soit moi qui vive dedans, tout seul. Donc, le projet est de pouvoir héberger. Alors, c'est vraiment une maison très communautaire et collective. Hein. Ça, c'est des chambres avec des espaces communs partagés. Et on veut accueillir du public fragile, des personnes en transition, des personnes qui ont peu de moyens pour se loger. On est en milieu rural, donc compliqué des fois pour des retraités, par exemple, du monde agricole, qui ont peu de moyens, qui sont isolés. Voilà, on a plein de publics en fait, qui peuvent être intéressés à avoir une maison où, en échange de la participation à la gestion de la maison, à la gestion du jardin, peuvent avoir un logement à des coûts très raisonnables. Donc, le coût du loyer va dépendre, et ça c'est le gros point, de nos capacités de financement du projet. Donc c'est aujourd'hui, on avance un petit peu chaque jour.
Et cette maison idéale, elle serait basée où ?
Dans la Gâtine, à proximité du Marais Poitevin, mais située à mi-distance entre Niort et Parthenay.
Ça, c'est l'emplacement idéal. Vous avez déjà le terrain ou...
Alors, on a des pistes, voilà, puisque ça fait très peu de temps qu'on s'est dit, bon voilà, la prochaine étape, c'est le foncier. Donc, on a quelques pistes, mais vraiment, ce territoire nous tient à cœur pour plein de raisons qui entourent le projet, les nécessités rurales, le climat, voilà, puisque la maison nécessite aussi d'être implantée dans un endroit un peu spécifique qui permet son autonomie en eau. Enfin bon, ça c'est les questions plus techniques que Maxime a beaucoup étudiées.
C'est une maison qui serait totalement autonome en fait.
Oui.
Donc racontez-nous techniquement qu'est-ce qu'il faut développer pour la rendre autonome. Quels seront les points importants?
Alors, les points importants pour l'autonomie, c'est l'eau, l'électricité et la nourriture. Après, vient le confort, mais déjà, en ayant ces trois points nécessaires et indispensables, je vais rendre la maison autonome.
Et donc, concrètement, pour l'électricité, notamment, ce qui est peut-être le plus complexe ?
Alors, en fait, la conception de cette maison produit un mouvement d'air constant, permanent, qui servira pour alimenter en fait les éoliennes. Il y aura des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques, mais je privilégie les éoliennes en fait, le mouvement de vent.
Plutôt le vent comme énergie, et donc pour le côté nourriture, le jardin.
Le jardin, mais également une partie de cette maison. Qui a toutes ses ouvertures situées plein sud et qui a une serre directement intégrée à la maison pour un système aquaponique.
C'est effectivement très, très bien pensé. Donc, vous disiez, et puis l'eau, comment on arrive à être autonome
En fait, c'est au dimensionnement de cette maison qu'on a estimé que le toit terrasse était suffisamment grand pour pouvoir réceptionner la totalité de l'eau nécessaire à la vie dans cette maison.
Très bien, merci beaucoup pour ce projet. Quelles sont les prochaines étapes qu'il va falloir franchir? Vous avez dit le foncier, ça va être le point important, et j'imagine le budget aussi.
Oui, alors on est en phase de finalisation de la partie budgétaire, donc le foncier, et puis après, trouver alors, les financements par différentes sources, bancaires bien sûr, mais des fondations ou des entreprises qui voudraient participer de cette construction. Et puis, mais dès que le foncier est acquis, en fait, on va commencer le jardin, puisque c'est ce qui met le plus de temps en fait à se construire, hein, parce que la maison met pas si longtemps que ça à se construire, donc le jardin. Et par le biais de chantiers participatifs, on va aussi mettre en place des petits habitats légers sur le terrain qui nous permettront de commencer à pouvoir héberger des gens tant que la maison n'est pas construite, et des gens aussi qui viendront aider à des chantiers participatifs pendant la construction de la maison. Il y a une partie de la maison qui est prévue en chantier participatif. Voilà. Donc, on va dès que le foncier est là, on commence, quoi.
Et puis, ensuite, il y aura des activités qui permettront d'avoir des fonds propres, en fait.
C'est ça. Donc, de l'hébergement, alors, à tarification différenciée en fonction des moyens des personnes, mais des hébergements très courte durée, moyenne durée, longue durée, tout dépendra des besoins. Et puis, on va organiser aussi, parce que le but de la maison, c'est un partage de connaissances et accompagner les gens à la transition écologique, y compris les gens qui ont peu de moyens. Donc, on va organiser des stages ou des ateliers pour faire découvrir aux gens que l'écologie, finalement, c'est pas cher, qu'on peut développer des solutions quand on a peu de moyens. Et pour apprendre ça, souvent, c'est des stages qui coûtent très cher. Et nous, le but, c'est qu'on ouvre l'information à tout le monde. Donc, en fonction des moyens que l'on aura, on essaiera d'accueillir le maximum de personnes et puis faire de ce lieu un tiers lieu, hein, tout simplement, avec du passage. Des gens qui viennent, qui repartent, qui viennent au jardin, juste des gens qui viennent se promener.
Un grand merci à tous les deux pour ce beau projet. Donc, Ecovie, Maxime Ménard, donc président de l'association, et Livie Candusso, sa trésorière. Et puis, vous pouvez les rejoindre pour soutenir ce projet. Oui. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Une autre association très connue sur le territoire et dans toute la France, c'est l'ADMR. Ils viennent grâce à notre partenariat avec l'UDAF. Et c'est Mathis Dutemple, bénévole, et Myriam Desbans, directrice adjointe, qui vont nous parler de leurs préoccupations. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors oui, tout à fait. Moi, je vais commencer par vous décrire en quelques mots qu'est-ce que c'est l'ADMR. Donc, c'est le premier réseau associatif innovant au cœur de l'établissement.
On n'a peut-être pas bien entendu le début, donc l'ADMR.
Oui, l'ADMR, c'est le premier réseau associatif innovant au cœur de l'économie sociale et solidaire. 78 000 bénévoles sur l'ensemble du territoire français, dont 374 ici dans la Vienne. Il est basé sur un concept innovant, c'est-à-dire que c'est un trinôme bénévole, salarié, bénéficiaire, qui vont lier le professionnalisme et l'entraide citoyenne pour accompagner les personnes en situation de solitude, pour rompre la solitude, et les personnes en situation de vulnérabilité, parce que le bénévolat, ça s'inscrit avant tout dans le bien vieillir, à travers le lien social, de donner de son temps pour aller rencontrer des gens dans les domiciles, rompre la solitude que certains subissent. Donc moi, j'encourage vraiment à ce que les gens tentent le bénévolat à la DMR en fonction de leur temps, leurs envies, leur curiosité. Parce qu'il y a plein de choses, plein d'activités à faire. Et pour aider les bénévoles, il y a un centre de formation auquel ceux qui souhaitent peuvent participer à des activités pour savoir quelle tâche de bénévolat je veux faire, etc., de quoi on a besoin. Et ce centre de formation, il sert aussi aux salariés qui vont être formés tout au long de leur cursus professionnel dans des missions diverses et variées, parce que les métiers du domicile, c'est vraiment des métiers qui sont indispensables aujourd'hui pour le bien vieillir des personnes vulnérables dans leur domicile. Il ne faut pas hésiter à passer les portes des bureaux en localité. Moi, je suis vice-président de l'association ADMR de Bourret, c'est une petite commune de la Vienne. On s'occupe de 4 autres communes, donc n'hésitez pas à passer les portes des bureaux en ruralité pour postuler, que vous soyez bénévole ou salarié.
Ça, vous êtes implanté sur tout le territoire, vraiment au plus proche. Et il y a un problème de reconnaissance un peu au niveau des salariés.
Oui, exactement. La difficulté actuelle de l'ADMR, c'est le recrutement. Un des éléments fondamentaux de ce problème, c'est que les salariés du domicile sont les seuls acteurs du secteur médico-social qui n'ont pas le Ségur Alors qu'ils ont été au cœur du Covid et au plus près des personnes vulnérables dans leur domicile. Alors bien entendu, tous les acteurs du soin l'ont été, mais dans les domiciles, la particularité, c'est que les gens sont chez eux. Et en termes de sécurité des professionnels, ils ont été confrontés au fait que l'hygiène des maisons, les désinfections, comme dans les hôpitaux, n'étaient pas, il n'y a pas de procédure. Donc les gens étaient chez eux. Donc ont été vraiment confrontés à tous ces problèmes-là. Effectivement, la DMR essaye de pallier à cette problématique, puisqu'il y a environ 300 euros d'écart avec un salarié autre dans l'approche de la vulnérabilité. Donc, on a mis en place effectivement une flotte automobile, mais qui nous coûte cher pour l'association, pour le réseau, avec 1000 voitures. On professionnalise également les métiers, puisqu'il faut une reconnaissance. On le dit souvent, c'est écrit maintenant dans la littérature, ce sont les acteurs de l'ombre, en fait, un peu les invisibles, du secteur médico-social. Ce qui est important, c'est qu'on privilégie, on favorise les plein temps des salariés, donc c'est à noter. Et quand les salariés ne sont pas à plein temps, c'est parce que c'est un temps choisi, voilà. On met aussi ce qu'on appelle des plages d'indisponibilité. Ça veut dire qu'on s'adapte à la vie privée des salariés. On s'engage aussi dans la qualité de vie au travail, donc avec des partenariats autour de la CARSAT pour du matériel, des draps de glisse, des ceintures de redressement, voilà. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment sensibiliser tous les politiques publiques, parce qu'on nous parle du virage domiciliaire. Et donc, ça veut dire que demain, beaucoup plus de personnes seront en domicile. Et si on est en défaut de recrutement, de professionnalisation, eh bien, on ne pourra pas accompagner dignement les gens qui sont chez eux.
Merci beaucoup à tous les deux, donc Mathis Dutemple et Myriam Desbandes, d'être venus parler de la DMR et de cette vraie problématique à la fois recrutement de bénévoles et de salariés. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Demain, dans le Café de la Presse, on parlera du renouveau des institutions culturelles à Poitiers. Tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. Avec à 14h une session d'information sur la mobilité internationale par Europe Direct et la mission locale de Poitiers. C'est donc auprès de la mission locale d'insertion du Poitou, rue des Feuillants. Au TAP Castille, hommage à Laurent Canté avec Entre les Murs, c'est à 20h30. Et donc dans le cadre, bien sûr, du Festival de Cannes. Soirée PFAS polluant éternel à l'initiative de la députée écologiste NUPES Lisa Bellucco. Donc c'est à 17h30, il y aura Nicolas Thierry qui a testé donc des personnes pour savoir si elles avaient des polluants en elles. Il y aura le résultat de ce test. Et puis à 18h, la projection du film Dark Waters. Yvan Péo sera à la Belle Aventure ce soir à 18h pour présenter son livre Le plus beau village de France. Et sur Pulsar à 19h, c'est une rencontre culturelle avec Diva. À 20h, c'est Metal Fury. Et 22h, on termine la journée au coin du feu. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique de cette émission. Ce soir, concert d'Asian Dub Foundation avec Culture Dub. Vous savez, notre émission phare de Dub sur Radio Pulsar. On en écoute un extrait. Bon après-midi, à demain.